C'est quoi le plan, boss?
Me dis pas que t'es inquiet.
Salut!
Salut!
C'est Soundtrack.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
C'était la dernière séquence. C'était sa dernière séance.
Bonsoir, selon l'heure, vous écoutez, parce que là, nous sommes vendredi 12 septembre, c'est la rentrée pour Soundtrack.
Bonjour.
Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Et bonsoir à la technique, occupée ce soir par le plus jeune de la radio, Maëlan.
Bonjour à tous. C'est pour ça qu'il y a, eu pas mal de bêtises là pour l'instant.
Mais non, il n'y a pas de bêtises. Tu fais pas comme moi. Moi, je fais des blancs directement.
Ah là là. Ça n'est pas grave, ça n'est pas grave.
On n'a pas Teddy à la technique, puisqu'il est parti tâter le cul des vaches à la foire du Mans.
Et oui, effectivement, il n'est pas là.
Il est parti voir les animeux.
Ouais.
Voilà. C'est ça.
Non, c'était ma connerie, je tenais à la noter. Donc voilà.
Et aujourd'hui.
Eh ben, on n'a pas la vidéo non plus.
On n'a pas la vidéo parce que petit problème technique, mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce,
oui, parce qu'on fait de la radio.
On a des physiques de radio, donc ça colle bien à ce niveau-là.
Oui, alors ce on. Faudra qu'on débatte de ce on, mais c'est pas le sujet.
Mais c'est pas le sujet. Et aujourd'hui, bah, on finit quand même par un sujet en on, puisque nous allons traiter les films d'animation.
On commence, mon chéri.
Mais justement, on va
voyage en musique à travers l'animation.
C'est cela.
On est parti.
Et donc, bah, désolé pour ceux qui voulaient nous suivre sur Facebook, on n'est pas là, mais... Au moins, vous nous écoutez en FM 90.2 sur Bouloir et la Sarthe,
le DAB+,
Canal 7B,
mais oui.
Et également les enceintes connectées. Et pour ceux qui sont quand même technologiques, ils sont sur le www.ornithoring.net.
Allez.
Et oui.
Et donc, aujourd'hui, nous le disions, nous allons voyager à travers l'univers magique du cinéma d'animation en explorant les musiques qui lui donnent son âme.
C'est beau. On dirait de la poésie.
Oui, c'est ça. De la poésie, donc. De l'animation française aux envolées épiques de l'Asie et des États-Unis. Une heure pour redécouvrir ces films. Alors, une heure. On va tenter. On a le programme, mais on va encore dépasser, je pense.
Mmh.
Sous un nouvel angle. Allons-y. Et tout d'abord, mon cher Yves.
En fond sonore, au niveau du générique, on avait un petit Ernest et Célestine.
Et oui,
fais le tourner un petit peu pour nous accompagner en ce début d'émission. On a justement Ernest et Célestine.
Qui aurait parié un bouton dessus ? Qui aurait parié un bouton de son par-dessus ? Un bouton d'imperméable sur ses deux indénouables. Parié un bouton dessus. Qui aurait parié un bouton de son par-dessus? De culottes ou de bottines sur Ernest et Célestine. L'aveuglante vérité étonne la société. Qui aurait pensé qu'un ours mal léché devienne l'ami d'une souris? C'est insensé. Qui aurait prédit qu'un ours mal luné puisse être l'ami d'une souris? C'est interdit. L'aveuglante vérité étonne
sont par-dessus un bouton d'imperméable sur ces deux indénouables qui auraient paillé un bouton dessus, qui auraient paillé un bouton de son par-dessus, de culottes ou de bottines sur Ernest et Célestine.
Ernest et Célestine qui partent, une fois n'est pas coutume, hein. Si, oh si, 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 si.
Là, on était sur une musique du premier épisode, oui, paru en 2012.
Oui.
On en avait parlé rapidement la dernière émission, ça avait été la musique de sortie, donc c'est pour ça, oui, quand on a discuté du thème d'aujourd'hui, tu m'as dit, on a été un peu rapide dessus, ce serait bien qu'on en repasse un petit bout et qu'on parle maintenant de ce petit voyage en Charabie.
C'est ça, donc le film suit Ernest et Célestine qui partent en voyage dans le pays natal d'Ernest, la Charabie, pour pouvoir réparer son violon malencontreusement cassé. Quand on voit Ernest, on sait pourquoi. Mais Ernest, passionné de musique, ne tarde pas à s'attirer involontairement des ennuis. Il se fait arrêter, notamment pour avoir joué des notes interdites. Il ne reconnaît plus son pays où la musique est dorénavant bannie. Les deux amis découvrent heureusement l'existence d'une résistance musicale à laquelle, évidemment, ils vont prêter leur aide.
Qu'est-ce qui fait que nos cœurs se parlent dans le silence, dans les rires et les pleurs? Oui, tu peux me faire confiance. Un, deux, trois, au rythme de nos pas, on se blesse, puis on se prend dans les bras. Moi, je veux être seule avec toi.
Légèreté avec Pomme au chant. Et la musique, c'est Vincent Courtois. Et donc, Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie, également suite du film d'animation Ernest et Célestine qui était sorti en 2012. Ce film d'animation français date de 2022, réalisé par Julien Cheng et Jean-Christophe Roger. Et c'est basé sur l'œuvre graphique, bande dessinée, livre de jeunesse de Gabriel Vincent, qu'elle a écrit plein de petites histoires entre 81 et l'an 2000 et qui avait été adaptée d'abord en petite série animée à la télé avant donc de connaître le plaisir du grand écran avec ces deux œuvres. Et donc, musicalement, j'ai dit que c'était Vincent Courtois qui avait déjà fait la musique du premier épisode. C'est tout en légèreté. C'est un compositeur qui est violoncelliste et jazzman.
C'est ça.
Né à Paris en 1968. Et donc, comme vous avez pu remarquer aussi, ça colle très bien à l'univers enfantin. C'est tout en légèreté, en retenue. Vous avez entendu également juste avant la chanson d'Ernest et Célestine qui pareil a tout ce côté léger mais joyeux, c'est, même si le sujet est plus grave en
moi,
charabie.
Moi je trouve que ça rejoint aussi le dessin,
mais
le dessin n'est pas saturé, on n'est pas sur des, ça n'est pas agressif, ça prend son temps. La musique est en parallèle du dessin,
c'est
il y a un dialogue.
C'est voilà. Ça c'est... On a musicalement ce qu'on a visuellement.
Tout à fait. Ben, je crois que je viens de croiser une critique de Télérama. On est bien dedans, Yves.
Ouais.
Félicitations, tu vieillis.
Et bon, on va pouvoir citer tout ce qu'a fait ce monsieur. Il a une très belle, on va dire, biographie qu'on pourrait, je pense, un jour peut-être faire une petite spéciale sur ce monsieur.
Pas qu'une discographie.
Voilà.
Il a de quoi dire.
Il a travaillé justement pas que dans le jazz, pas que dans la musique de film. Et j'avoue que moi, pour l'instant, je n'ai découvert son œuvre que grâce à Ernest et Célestine.
Oui.
Mais rien que déjà à écouter cette légèreté, bah, ça va me pousser, moi, à aller voir sa musique en elle-même et plus tard, peut-être découvrir d'autres films.
Voilà.
Mais...
On passe à la suite.
On était... Avec les Français, on
oui.
va continuer en français.
Restons français.
Et on va envoyer une petite musique qui va peut-être être que vous allez aimer. Allez,
oui.
Je fais un jeu de mots pourri. Tu
oui.
aimes ?
Non, oh, j'adore.
Ouais.
Je vais pas finir mes jours à Tombouctou. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez.
Swimming daddy, rendez-vous. Margot dancing, dirty look. Auto coca, manga boo. Faire bien soin, je rendez-vous.
Je vais finir ma vie à Singapour.
Singapour.
Je voudrais qu'on mange des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot. Gondoler comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée. Swinguer comme une triplette de Belleville. C'est bien plus doux de faire des rimes en roue. Mais je
Ah, bon, avec mes jeux de mots pourris que j'ai envoyés juste oui. avant le titre, j'ai demandé si vous aimiez et si toi, Jérôme, tu aimes.
Bah, oui,
puisque,
bien sûr.
Bah, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en musique, vous avez reconnu la voix de Mathieu Chédid,
bah, oui.
nommé M également sur scène. Et on est parti à Belleville avec les triplettes de Belleville.
Oui,
on
dans a fait la jungle, littéralement, maintenant. Ouais.
Et on a fait du vélo, parce que les triplettes de Belleville, c'est un film d'animation français oui. et réalisé par Sylvain Chaumet, sorti en 2003. Et le film a été récompensé par plusieurs prix, et il le mérite pleinement par son animation, par toute la folie, par l'histoire. Mais justement, l'histoire... Mon cher, je te laisse nous la raconter.
Voilà, c'est ça. Je pense que quand il me dit ça, il veut un synopsis, je pense.
Je pense. C'est quoi ce mot ?
Le voici. Madame Souza élève seule son petit-fils, un garçonnet mélancolique. Quand elle découvre que l'enfant aime le vélo, elle l'encourage à s'entraîner, lui faisant même subir un programme rigoureux. Les années passent et le petit garçon devient un sportif accompli, à tel point qu'il participe au Tour de France. Mais le jeune coureur est enlevé par de mystérieux hommes en noir. C'est alors que trois chanteuses du troisième âge aident la grand-mère et son chien à retrouver Tissadon, son petit-fils.
Quand on entend ce synopsis, on se dit « mais ça a l'air complètement barré ». Comme je vous l'ai dit juste avant, je confirme, c'est totalement barré. C'est un graphisme déjà qui est... assez particulier, il est oui. anguleux, il est...
C'est très jazz, ça m'évoque d'autres dessins animés, c'est très Gotham Project dans la manière ouais. de faire, ça m'évoque ces films, ces vieux cartoons américains.
Et justement, les
premiers Mickey... Les...
L'action se passe dans un passé pas si lointain que ça,
oui.
mais c'est le temps du Tour de France... Où vous n'avez pas de voiture suiveuse pour vous changer votre pneu quand vous avez crevé. C'est les mecs, ils ont tout sur le dos pour réparer. C'est vraiment l'épopée réelle
ouais,
du Tour de France.
C'est l'époque bénie où on s'arrête dans les troquets pour boire un coup.
C'est ça également.
D'accord.
Donc,
d'accord.
Et justement, dans ces troquets, qui c'est qu'on croise ces trois chanteuses mémères, mais qui ont un swing. Et la musique, c'est ça, c'est swing. C'est vraiment ce côté année folle et également swing, jazz.
Un peu jazz manouche.
C'est ça.
Un peu jazz manouche.
Et justement, au niveau des musiciens,
Benoît,
il y a également...
Benoît Charest.
Et on a également Thomas Dutronc qui apparaît à la guitare.
Oui.
Donc...
Oui.
Justement, ce côté jazz manouche est bien présent et correspond à cette époque. Et donc, tu citais Benoît Charest.
Oui.
Il est né à Montréal. Ah, oh, c'est un copain québécois.
Oui.
En 1964. Et dès l'âge de 13 ans, il se passionne justement pour la guitare et apprend à l'oreille des pièces des Beatles et de Led Zeppelin.
Oui.
C'est
ça
que
va.
Le mec, il se débrouille.
Il savait pas à l'époque, mais
ouais.
bon, des indices quand même. Hein.
Et par la force des choses, il découvre le jazz et décide à 17 ans d'entreprendre des cours privés avec Niels Mollaar, diplômé de la Berklee School of Music de Boston.
Oui, Berklee, avec ouais. deux E, pas ouais. E-Y.
Excusez du peu tout de même. Et celui-ci lui apprend les rudiments de l'harmonie, ce qui l'aidera grandement à acquérir une plus grande maîtrise de l'instrument et de la musique en général. Et durant ses études universitaires, il gagne sa vie en jouant avec les meilleurs jazzmen de Montréal. Et c'est en 91 qu'il signe sa première musique de film, Montréal Rétro, un documentaire de l'Office national du film pour lequel il compose, arrange et dirige la trame musicale. C'est le mec, il y va tout de suite. Il fait tout en grand.
Clairement. Et sinon, on pourrait peut-être changer de continent. Ce serait pas mal.
Ah,
alors
ouais.
que Yves est en train de scroller à la recherche du continent perdu, messieurs, dames.
Le continent perdu. On va passer.
Tu t'approches.
À l'opposé de la planète.
C'est très radiophonique.
Ouais,
ça y est, Yves va retrouver l'Asie. L'Asie.
Et encore l'Asie. Plus de précision, mon cher.
Oui.
Une île
oui.
entre le ciel et l'eau, chantait Serge Lama, mais là, c'est une île qui est très, très, très reconnue au niveau de l'animation, justement.
Oui.
On parle pour certains styles de Japanimation.
Là, ouais, là, on sait maintenant.
On n'y est pas tout à fait, mais on va au Japon.
Puis de toute façon, c'est le voisin.
Ouais.
Totoro.
Voilà, c'est ça, bien lancé. Et tu nous fais... une petite musique d'abord. On va laisser monter un peu la musique pour... parti avec mon voisin Totoro. On a retrouvé Hayao Miyazaki, le célèbre Hayao Miyazaki.
Du studio
Ghibli.
Bah oui.
Et là, on est en 1988, donc déjà bien longtemps. C'est vers les débuts, justement, des studios Ghibli. Et c'est un des premiers, si je ne me trompe pas, justement, des studios Ghibli.
Tout à fait.
Et rien qu'à la musique, on sent la poésie.
Oui.
On est comme avec Ernest et Célestine.
C'est le pays des fleurs de cerisier.
Voilà, c'est ça.
On l'a. On le verra dans tout ce qui suivra, Miyazaki et autres. C'est la patte du studio. C'est la manière de faire.
Justement, ceux qui connaissent l'univers Ghibli ont quand même vu, on va dire, un univers très vaste au niveau... Il y a beaucoup de parts de la nature, mais justement, il y a aussi beaucoup de parts de combat, donc des musiques qui sont quand même beaucoup plus âpres. Mais là...
Princesse Mononoke.
Ouais, il y a Princesse Mononoke, il y a Nausicaa de la princesse... On a vraiment beaucoup d'univers chez les studios Ghibli, mais là, justement, je te félicite du choix, justement, pour justement cette émission, d'avoir ce côté beaucoup plus léger. Ça fait du bien aussi d'avoir de la petite musique qui accompagne très bien le visuel également. Et comme je disais, la poésie, parce que c'est vrai que Mon voisin Totoro fait partie de ces films emblématiques où le personnage, vous voyez le personnage... Faut bien sûr connaître l'univers.
Mais on vous encourage à aller voir.
Mais beaucoup d'enfants, justement, reconnaissent tout de suite le personnage de Totoro.
C'est pas compliqué.
Voilà.
Il a un visuel, il a une tête, il a quelque chose. Il a une gueule, comme on dit en France.
Mais justement, explique-nous un tout petit peu ce que tu fais si bien, le synopsis.
Oh, bah dis donc, ça faisait longtemps. Ouais. Alors, deux petites filles, Satsuki et Mei, s'installent à la campagne avec leur père. Tandis que leur mère est hospitalisée. Dans la forêt voisine, elle rencontre Yves. Non, Totoro.
Ouais.
Une créature géante et bienveillante. J'étais pas tombé loin.
Ouais, c'est...
Qui les entraîne dans des aventures merveilleuses, Yves.
Ouais.
Et leur apporte réconfort et magie. Aucun enfant ne sera blessé lors de ce tournage.
Sachant qu'en plus, comme c'est un film d'animation, ils auront juste été dessinés et bien dessiné et animé en conséquence. Et musicalement, justement, pour avoir cette légèreté, il faut un très très grand compositeur.
Ah oui.
Et dans les studios Ghibli, ils en ont un qui a fait beaucoup beaucoup de bandes annonces musicales pour les films, et c'est Joe Hisaishi. Et justement, je pense que pareil, il fera partie progressivement d'une émission spéciale, parce qu'il mérite également. Comme je disais, par rapport à tout l'univers développé chez Ghibli, il a justement la capacité de développer tous ses univers musicalement.
Va falloir qu'on négocie les contrats, mon cher Yves.
Ouais. Et justement, dans sa discographie chez Ghibli, il y a Nausicaa de la Vallée du Vent, Mon voisin Totoro, on voit déjà donc deux univers bien différents. Dans le côté toujours léger, Kiki la petite sorcière. Dans le côté beaucoup plus fantasmagorique, Le voyage de Chihiro. Et dans le côté mécanique, mystérieux, le château ambulant. Donc c'est vraiment un concept musical qui est à chaque fois très bien développé. Et en réalité, Monsieur Joe Hisaishi, ce n'est pas son vrai nom.
Non, il s'appelle Mamoru Fujisawa.
Merci de me l'avoir piqué. Voilà. D'habitude, tu me laisses les mots compliqués.
Je sais.
Je te les laisse. Donc, compositeur, chef d'orchestre, pianiste, parolier japonais.
Oui.
Et donc, majoritairement connu pour tous les films de Hayao Miyazaki et également Takeshi Kitano.
Miyazaki
n'est pas tout seul.
Si vous connaissez Takeshi Kitano, non seulement c'est un amuseur public, c'est un poil à gratter notable au Japon, qui a pour habitude de n'être jamais où on l'attend, d'être relativement féroce. On va dire que c'est l'élastique sur les testicules que vous n'avez pas le droit de rire dans la bibliothèque. C'est ce genre de personnage qui va vous... faire un jeu dont le but du jeu est de vous dégoûter des jeux vidéo sur une console qui était déjà pas évidente à jouer, qui va en exploiter toutes les facettes jusqu'au micro, ce qui était pas banal, c'était la Famicom à l'époque. Ce jeu est emblématique, je vous engage à aller voir d'ailleurs sur YouTube ce qu'en a dit Joueur du Grenier et d'autres.
Est-ce que tu crois que Johan Sega serait capable de nous en parler un jour ?
Oh bah il peut en parler, je pense.
Ouais, on lui donnera rendez-vous pour une occasion, parler justement peut-être des musiques de films d'animation et de films de jeux adaptés.
Mais allez voir qui est Takeshi Kitano et allez voir qui est Hayao Miyazaki. Rien que pour le grand écart culturel et le monde qui sépare ces deux hommes, et finalement, on se rejoint.
On fait un peu court sur Ghibli parce que là, on va aborder...
Autre chose.
On reste au Japon.
Oui, mais on met un pied en France.
Mais on change totalement d'univers. Parce que justement, c'est ce que je disais, le Japon est connu pour la Japanimation.
Oui, mais en France, on a saccadé, on a maltraité toutes les bandes son. Mais on les connaît tous. Hein. Ouais. Ariane l'a fait sur Dragon Ball. C'était l'époque du club de Dorothée, mes pauvres amis. Et à l'époque, on aimait bien reprendre le japonais et le faire en français. Ça ne nous a pas donné des trucs forcément très bien.
Des fois, c'est
ça
pas mal, c'est bien adapté.
Pas toujours. Peut-être pas.
Allez, Maëlan, tu vas nous envoyer un petit titre de Captain Harlock. On revient derrière pour en discuter.
Captain Harlock.
Là, ça change d'ambiance. Hein. On était avec mon voisin Totoro. Là, on est avec mon voisin Captain Harlock. Bon,
c'est pas le même. C'est pas le même. Ouais. Et je vais développer parce que je moquais, je titillais ces séries qu'on a connues.
Il y a quand même un détail qu'il faut peut-être donner. Parce que pour certains, Captain Harlock, ils savent pas qui c'est.
Ah bah oui, c'est Albator.
Voilà. En France, c'est Albator.
Mais j'ai laissé Captain Harlock parce que là, on est en 2013.
Ouais.
C'est un film d'animation. On n'est pas sur les anciennes Albator.
Ouais, on n'est pas sur la série animée de 1978 que tout gamin... à peu près a réussi à voir que ça soit à la première sortie dans les années 80.
Jeune, mais oui.
Mais ça a été rediffusé. Et
bien
en
sûr.
Même temps, il y a eu deux séries, parce qu'il y a Albator et Albator 84, si je ne me
trompe
pas. C'est
ça, tout à fait.
Et donc, pour certains, on va dire un peu plus anciens, ou les parents qui ont fait découvrir à leurs enfants, ou s'il y a eu rediffusion, on est avec Albator, le corsaire de l'espace. Mais là, on est donc sur le film d'animation de 2013, comme
tu
disais.
C'est beaucoup plus noir, et pas qu'en termes de graphisme. Je vous engage à aller voir.
Et rien que la musique.
Ah, la musique est beaucoup plus noire, c'est beaucoup plus dark.
Ouais.
Et on sent qu'Albator, excusez-moi l'expression, mais il a un côté pirate, oui, d'accord.
Oui.
Mais on n'est plus tout à fait dans ce dessin de Goldorak à l'époque aussi.
Mmh.
On sentait le cello, on sentait... Voilà, il y avait toujours ce petit côté japonais, un petit peu vieux dessin animé. Ce film d'animation-là, moi, m'a mis une baffe. C'est l'équivalent de Rogue One dans Star Wars.
Ouais.
Il est sans concession. Ce qu'il a à dire, il va vous le dire. Albator, il a un côté sombre. Et j'en parlerai un peu plus tard. Mais Albator, il est corsaire de l'espace. C'est pas simplement parce qu'il a un vaisseau. Là, son vaisseau, c'est pas tout à fait un vaisseau de pirate. Il est réellement noir et pas marron avec un pauvre drapeau qui flotte dans l'espace. Ça aussi, on pourrait en parler.
Ouais.
Avec des machins qui font piou-piou. Ça aussi, on pourrait en parler. Mais c'est un autre débat. Captain Harlock, il est très noir. Et là, on est en train de glisser sur une autre musique. Merci Mylan, bien rattrapé.
Mais t'as vu ça.
Et en plus,
même les auditeurs,
il parle,
ils ont même pas eu le temps de l'écouter.
Ouais, bah là, ouais. Ils le savent maintenant.
T'aurais même pas dû le dire. C'est la magie de la radio.
On coupera au montage.
Allez, oublions pas.
On coupera au montage. Captain Harlock, donc 2013. Et on a commencé en 78.
Donc pour la série animée dont je parlais.
De Shinji Aramaki, donc en 2013. Et on a entendu d'ailleurs The Battle derrière, sur le fond de mes explications.
Et donc, un petit synopsis pour expliquer justement ce côté sombre.
Oui. Dans un futur lointain, la Terre est devenue une planète interdite. Je répète, on n'est pas sur le lore, on est sur l'animé.
Ouais.
C'est pas tout à fait la même chose. Interdite pour les humains, éparpillés dans l'espace. On retrouve le lore. La planète ne dispose pas d'assez de ressources pour héberger toute l'humanité. Un message. Le commandant du vaisseau spatial Arcadia, le capitaine Albator, est un pirate de l'espace épris de liberté, mais pas que. La liberté, ça se paye. Le gars est condamné à mort et il demeure, entre guillemets, insaisissable. Il se voudrait insaisissable. Je vous passe tous les tréfonds, toutes les explications du film qui est bien plus pointu qu'on ne voudrait bien le voir. On apprendra d'ailleurs que dans ce film, Albator, d'où le côté sombre, avait détruit la Terre en la parsemant de matière noire, fournie par une mystérieuse personne appelée Mimé. Ça, c'est pour ceux qui ont vu le film. La faisant devenir une planète morte et stérile, par définition. Aujourd'hui, dans ce film, Albator, lui, cherche à réparer son erreur en déliant les nœuds du temps. Je ne vous finirai pas le mode d'emploi, c'est Yves qui l'a gardé. Je le laisse se débrouiller donc avec ça.
Et donc, pour la musique qui accompagne justement ce côté sombre, c'est Tetsuya qui est compositeur, réalisateur de jeux vidéo, écrivain, développeur de jeux vidéo, créateur de jeux vidéo.
Voilà.
Nommé également Seiji Yokoyama.
Alors, ce ne sont pas les mêmes.
Ouais.
Ce ne sont pas les mêmes. Le premier a fait le titre épique que l'on a entendu en premier.
Ouais.
Le second, c'est celui qui se fait toute la musique d'Albator depuis le début. Donc, je présume que dans ce film, puisque je n'ai pas réussi, et mon japonais laisse encore à désirer, désolé Duolingo, hein, on fait ce qu'on peut, Seiji Yokoyama fait la musique d'Albator depuis le début. Il suit, alors c'est très japonais dans la manière de faire, il a écrit, c'est quelqu'un qui a écrit de nombreuses pièces symphoniques, avec une prédilection pour le marimba et les percussions. Ça, on ne l'a pas trop jusqu'à présent.
Non,
il travaille également pour la télévision, la radio et le cinéma à partir de la fin des années 50, pour bien situer où on en est. Il s'illustre majoritairement sur des téléfilms et des séries de reconstitution historique, ça on le sent bien, des séries animées notamment pour Albator, dont les musiques furent en grandement partie et réécrite dans la version française, ce que je tentais de crier haut et fort tout à l'heure. Mon Dieu, orage au désespoir. Donc, cet homme-là n'est pas connu en France que pour ça, mon cher Yves. Qu'est-ce qu'il a-t-il fait donc d'autre ?
Non, je ne vais pas te la chanter. Les chevaliers du Zodiac. Non,
non, t'as raison, on ne la chante pas.
Ouais, je ne la chante pas.
Donc, Senseiya, qu'en français, on a connu les chevaliers du Zodiac aussi. Pas plus mal chanté, mon cher Yves.
Ouais.
C'est la rentrée.
Allez, ouais, ouais.
Pommade, et ça fera pas de mal.
Et on va dire, pour ceux qui écoutent en direct et qui sont sur Bouloir, ils se disent, il peut y aller, il pleut déjà.
Voilà. Bon, le bonhomme n'a pas fait que ça. Néanmoins, ça reste son œuvre la plus connue à l'étranger, Senseiya. Voilà. Et Albator.
Et on va rester dans le domaine japonais, toujours.
Oui.
Et dans une œuvre Ben, on avait commencé plutôt joyeux avec Albator. On est arrivé dans le côté sombre de la force.
Là, on va creuser encore.
Ben, on va creuser un peu plus. Allez, Maëlan, fais-nous un petit plaisir. On a une ambiance là aussi.
Jinro, la Brigade des Loups, film d'animation japonais de science-fiction militaire réalisé par Hiroyuki Okura en 1999.
Et une sacrée ambiance musicale, ça commençait tout léger mais avec un côté quand même glauque. Et Jinro, c'est l'adaptation d'une série de mangas de Mamoru Oshii, publié de 88 à 2006 et illustré par plusieurs artistes. Et l'histoire suit les membres d'une unité de police spéciale dans un Japon uchronique qui a été envahi et occupé par les nazis après la Seconde Guerre mondiale.
Et vous avez donc l'explication de ce qu'est une uchronie.
Et on considère donc qu'on est dans un monde où c'est l'Allemagne nazie qui a gagné la guerre et qui finalement a même réussi à envahir le Japon.
Oui, coloniser... Ouais. Tout le monde est sous la coupe de, et le Japon y compris, et on va traiter justement de cette unité d'élite qui porte, on va dire, les armes et même les attributs quand vous pouvez aller voir sur internet et même l'animé, des soldats allemands. On reconnaît le casque caractéristique de la Seconde Guerre mondiale. Mmh. Ils ont le Walther adapté puisqu'on est sur quelque chose de plus récent. Ils ont même la fameuse... connue, la fameuse mitrailleuse automatique, la Schmerz, ne sais plus combien.
Pas, ouais.
Voilà.
Mais donc,
on a poussé le détail très loin. Ouais. Et finalement, je vais vous en raconter un petit peu plus. Ouais. Puisque nous sommes dans un Japon alternatif sous régime autoritaire, on l'a compris. Fuse, membre d'une brigade d'élite, hésite à tuer une jeune terroriste qui se suicide sous ses yeux. Traumatisé, il rencontre Kay, une femme mystérieuse liée à la victime. Entre manipulation politique et relations impossibles, Fuse se retrouve pris dans un engrenage tragique où l'homme et le soldat s'affrontent.
On n'est pas dans un truc très joyeux.
C'est... Ben, ça se rapproche fort de la réalité.
Oui, malheureusement.
Voilà. Les plus belles fleurs éclosent souvent sur les plus putrides fumiers, mon cher Yves.
Et c'est vrai, en voilà. plus. Et justement, ce film est vu comme une sombre relecture du conte « Le petit chaperon rouge ».
Bien sûr, dans ce court synopsis que je vous ai fait, on n'a pas toutes les aspérités, toute l'ampleur, toutes les petites vicissitudes, on va dire, asiatiques, coréennes et compagnie, que l'on pourrait trouver la notion d'honneur. Je vous engage vraiment à aller le voir, ce film, et attaquer ça avec un moral ou alors avec quelqu'un qui peut vous soutenir, parce que ce film va chercher au tréfond de vous-même et vous poser des questions. Essentielles, je trouve.
Comme quoi, justement, pour ceux qui, de temps en temps, disent film d'animation, ils pensent dessin animé avec le truc pour les enfants. Non, film d'animation, c'est vraiment très recherché certains. Ça peut être très poétique, comme on a eu tout à l'heure avec Mon voisin Totoro ou Ernest et Célestine. Mais un film d'animation, si on dit film d'animation, c'est que justement, c'est un film. Mais au lieu que ce soit des personnages réels, ce sont des personnes qui sont animées ou qui sont dessinées, mais avec justement toute la profondeur
qu'on peut y mettre dans un film. C'est la manière de faire. On n'est pas dans le produit en lui-même, dans l'histoire.
Et donc,
on va parler musique.
Pour la musique, c'est Hajime Mizoguchi.
Ah, tu le voulais.
Ouais, né en 1960, compositeur et musicien japonais, violoncelliste de formation et surtout réputé pour composer des musiques pour des séries et téléfilms live. Et pour ses musiques, il fait appel à un véritable orchestre classique et par exemple, c'est souvent avec l'Orchestre Philharmonique de Prague.
Et justement, vu que c'est ma salade et que c'est mon script, j'ai sorti Yves de l'impasse parce que ce serait pas gentil de le laisser là-dedans. C'est l'époux Hajime de la compositrice, et celle-là, elle est magnifique aussi, Yoko Kanno. Alors là, c'est pas une inconnue non plus. Compositrice japonaise, comme on l'entend bien. Elle est surtout connue pour son travail dans les bandes sonores d'animation japonaise. Elle est parmi les compositeurs les plus respectés par les réalisateurs New Wave et vétérans, dont Yoshiyuki Tomino, Shinichiro Watanabe et Shoji Kawamori. Je me suis même pas planté, t'as vu.
Et je pense que, comme je disais tout à l'heure, pour les deux autres, Yoko Kanno, je pense qu'elle aura le droit à une spéciale également, vu comment antenne tu m'en as parlé.
Oui.
Je me suis dit, il faut que j'aille découvrir également.
Oui. Alors là, on peut en faire une, deux, trois, quatre, dix. C'est un couteau suisse à elle-même. Mais puisqu'on en a parlé d'un et qu'on a parlé de sa femme, vous allez me dire... Mais dis donc, Jérôme, pour la musique, c'est qui pour ce film, finalement ? Eh bien, finalement, c'est un petit peu les deux, parce que dès qu'il y a l'un, l'autre n'est jamais très loin.
Ouais.
C'est assez marrant.
Donc, on est sous la direction de Mario Clemens, au milieu des percus, guitare, basse, électrique et autres synthés. Et on trouve Yoko Kanno au piano et au chant, mais elle est créditée sous le nom Gabriella Robin. Et Hajime Mizoguchi fait la composition et les violoncelles. Comme quoi, de toute façon, quand on est marié et qu'on est musicien et qu'on s'entend bien,
Il y a de la passion. Donc, atmosphère de cordes graves, sombre, dramatique. On est sur une parfaite transition.
Et là, on va aller dans un bel endroit encore.
Oui. On reste au Japon. Et on va aller voir s'il y a un fantôme dans le coquillage.
On va
parler de Ghost in the Shell.
Allez. Ça va être dur.
Yeah.
Oui, ça fout un peu les jetons, là. On est vraiment avec des fantômes, avec une ambiance glauque. On avait bien commencé tranquille, joyeux, maintenant on est dans le glauque.
Bah, l'histoire n'est pas glauque puisque l'époque est compliquée. C'est toujours, on est sur le fantôme dans la machine.
Ouais.
Et c'est la question que se pose justement dans ce film d'animation de Mamoru Oshii en 95 et qui est, d'ailleurs est adapté du manga du même nom. Voilà. Bon, il aura fait Ghost in the Shell, il en aura fait d'autres. Et l'histoire se déroule en 2029 dans un monde futuriste et dystopique de type cyberpunk. Ah bah là, littéralement.
Ouais.
Le major Motoko Kusanagi et son collègue Batu, deux cyborgs. C'est-à-dire que vous avez les humains et vous avez les cyborgs. Et le problème, en tâche de fond, on va les voir évoluer un peu comme deux flics à Miami, dans leur monde. Mmh. Assez étrange, on va en apprendre les codes, mais comme Appleseed, comme d'autres mangas, on va apprendre au fur et à mesure.
Ouais.
On n'aura pas un résumé, voilà, à moins d'avoir lu le manga et compagnie, et je ne suis même pas sûr. Souvent, on a ce genre de manière, on prend le train en marche et on découvre en même temps. C'est une autre manière de faire, moi j'aime beaucoup. C'est assez surprenant. Ils travaillent les deux dans une unité spéciale antiterroriste du gouvernement, appelée Section 9, à Newport City, au Japon. Newport City, pour une raison très simple. Ben, y a eu, je me crois me rappeler, deux guerres mondiales nucléaires, plus une troisième conventionnelle. Voilà, on est bien. Akira est passé par là, on a... Voilà.
Ouais.
Voilà, ça donne une idée, ça pose le cadre, on est dans quelque chose, dans un Japon qui, de toute façon, est entre l'entre-soi et le mondial, ce qui ne change pas beaucoup, on va dire, toujours sur une île avec ce côté très compliqué. Après tout, un oui japonais et un non, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire et si ça ne voudrait pas dire l'inverse. Je vous engage à aller voir Black Rain pour ce genre de questions aussi. Voilà. Et le Japon, à cette époque, il y a plusieurs problèmes et eux, la section 9, sont chargés de capturer, entre autres, un redoutable pirate informatique insaisissable, connu seulement par son pseudonyme de Puppet Master, le marionnettiste. On est dans cette espèce de jeu d'échecs permanent, de guerre politique intestine. Et si vous connaissez Ghost in the Shell, vous savez que ce n'est qu'une partie. Il y a eu d'autres animés, le lore est énorme. Vous avez les unités mobiles qui, bah à l'époque, on aurait pu appeler... Aujourd'hui, on aurait pu appeler ça des drôles, les... Je sais plus, ça a un nom bien japonais, mais ça ne me revient plus. C'est assez coloré, c'est très... je ne sais même pas comment l'expliquer. Ça n'est pas noir, c'est le reflet de l'époque qui est décrit à cet instant-là.
C'est très réaliste.
Tel Rogue One, tel Jinro, on est imprégné. On ne peut pas y aller à moitié. Ce n'est pas le genre de film qu'on attaque en lisant un livre ou en faisant autre chose. Sinon, on n'y comprend rien très vite. Et déjà que même en connaissant, c'est pas simple. Et justement, la musique, on pourrait parler de Kenji Kawai.
On peut quand même. Et il a donc un style expérimental, proche de la musique contemporaine. C'est un compositeur donc, de musique de séries télévisées à ses débuts. Et il est surtout connu pour l'atmosphère justement glaçante et hypnotique qui se dégage de sa musique. Et pour sa collaboration avec le réalisateur Mamoru Oshii, donc, qui a fait Ghost in the Shell, entre autres. Et il utilise aussi des percussions de tous les coins du monde, comme pour Seven Swords, donc Ghost in the Shell, ou Innocence, le deuxième épisode de Ghost in the Shell. Et c'est un des compositeurs japonais de musique de film les plus connus, avec Joe Hisaishi, dont on a parlé précédemment, et Ryuichi Sakamoto. J'ai presque envie de dire qu'on ne présente plus à ce niveau-là.
Tout à fait, tout à fait.
Et... Bah, je suis désolé, on est en train de regarder un peu l'heure en même temps.
C'est une émission en direct, on adapte. Je pense qu'on a bien fait notre petit périple au Japon.
Ouais,
on peut passer à un autre continent.
On va faire un autre continent. Et même, je suis en train de dire par rapport à l'heure, on aurait voulu en faire un peu plus sur l'animation américaine, puisque on ne peut pas parler de l'animation sans parler de l'Amérique. Bon. On vous passe les Disney. Ça viendra peut-être une fois un spécial pour les musiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de très grands compositeurs qui ont fait pour Disney. On va plus s'attarder sur un autre univers, c'est Pixar.
Bah oui,
c'est
Pixar.
Quand même l'autre grand, même si maintenant Disney et Pixar se sont mariés. Pixar s'est quand même fait connaître grandement pour sa qualité de film d'animation.
Ouais,
on en a plein qu'on voudrait parler. Ouais. On pourrait
on
parler
pense
de,
à Toy Story.
De Toy Story, de Cars, où tu avais choisi des musiques, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir les diffuser.
Bah, tous les
les
deux
diffuser,
avec Randy Neumann.
Sauf si, tiens, mets-nous un bed. Mets-nous un petit bed de Toy Story.
Ouais. Voilà.
Allez.
Je suis ton ami Yves.
Ton ami, c'est moi, tu sais. Je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, on va drouille loin, très loin de ton lit douillet. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait, ouais. Je suis ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Y'a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort et plus puissant aussi. Mais je suis sûr que personne t'aimera comme je le fais. Toi et moi, plus les années passent, plus on est solidaires. C'est peut-être ça notre destin.
Alors voilà, là un petit Toy Story juste pour se rappeler certains des grandes musiques de films qu'il y a dans ces films d'animation américains. Mais malheureusement, je regarde l'heure à la pendule, on est en direct, il est 21h56. Notre dernier titre fait 3 minutes, donc on a une minute pour se dire au revoir et on reviendra sur les films américains plus tard.
Ah, c'est ouais. Promis.
Et donc,
bon, bah alors donc de l'importance de la musique pour donner vie à l'animation.
C'est
donc,
ça.
Mais de beaucoup
ouais.
D'importance de la musique. De la tendresse d'Ernest et Célestine aux envolées épiques de Dragon, dont on aurait voulu parler, la musique du film d'animation nous rappelle que derrière les images, c'est souvent la partition qui fait battre le cœur de l'histoire.
Et ça, justement, c'est aussi le thème de
paroles.
C'est le thème de soundtrack, c'est vous passer justement les musiques de films parce que il faudra un jour qu'on fasse aussi les musiques de films qui n'ont rien à voir avec, on va dire, les bandes sonores totalement ratées par rapport au film. Ça sera un thème. Mais là, on se dit au revoir. Merci Maëlan à la technique.
Merci à vous.
Ça s'est super bien passé.
Merci à Facebook qui n'est pas venu.
Ouais.
Merci.
Ouais, c'est ça, il n'était plus invité.
Il n'était pas là.
Merci
il
à tous ceux là. Qui étaient au 90.2 FM, au DAB+, Canal 7B, www.nitorin.net.
Merci Yves.
Merci mon cher Jérôme.
Je vous en prie.
Et pour se quitter...
Et puisque Octobre Rose n'a jamais été aussi près, nous allons consacrer, peut-être, la prochaine émission aux compositrices. Vaste sujet. Nous finirons donc par le morceau suivant. Invincible de Kirsten Ariane. Salut les gens, à la prochaine.
Salut tout le monde.
Salut.
10 octobre.